Aujourd'hui, j'ai l'heureux plaisir de parler à une personne que je ne ferai pas semblant que je parle à quelques reprises, le journaliste sportif William Boivin. Bonjour William, comment vas-tu?
Salut Laurent, ça va très bien, très content d'être là pour pouvoir participer avec toi à ce beau projet.
Oui, c'est ça, c'est un balado sur l'importance du frais français. Pourquoi j'ai pensé à toi? C'est parce que j'ai parlé des différentes sphères. J'ai parlé du domaine automobile, j'ai parlé bien sûr le domaine des médias, mais je voulais tomber un peu aussi un petit peu plus spécifique au niveau des médias avec les gens qui œuvraient dans le domaine du sport parce que veut pas, lorsqu'on parle de sport, souvent on a tendance à utiliser des anglicismes. Et quand même, toi, je trouve que tu fais un effort, la plupart du temps, je trouve, pour utiliser la langue française avec le niveau adéquat. Mais on va commencer par parler de ton cheminement personnel un peu. Toi, est-ce que d'emblée, tu voulais te diriger dans le domaine des communications?
Oui, quand même. Écoute, moi, j'ai pensé tout jeune faire carrière dans le domaine du sport, autant comme joueur de hockey à l'adolescence qu'un petit peu plus tard à l'adolescence comme joueur de football. Puis finalement, tu te rends compte assez rapidement que ton rêve de soit évoluer dans la Ligue nationale ou dans la NFL, il est peut-être, c'est un bon rêve, c'est un objectif, mais c'est pas très atteignable. Alors, j'ai toujours eu une grande passion pour le sport. Je me suis dit, pourquoi pas la communiquer, justement. Donc, oui, je me suis lancé dans des études en communication à l'Université de Sherbrooke après mon passage avec le Vert et Or, où j'ai joué une seule saison au football là-bas avant de me déchirer le ligament croisé intérieur du genou pour une deuxième fois. Donc, ça a mis un terme à ma courte carrière de football. Et puis, j'ai rapidement, eu la piqûre, justement, pour le domaine des communications, puis communiquer ma passion, c'est-à-dire le sport. C'est pas évident de faire sa place dans ce domaine-là, autant le domaine des médias que le domaine sportif médiatique. Je pense que tu peux en parler également, oui. Toi, Laurent. Donc, j'ai tout le temps voulu quand même avoir plusieurs cordes à mon arc pour, à un moment donné, peut-être pouvoir profiter et gagner ma vie avec ma passion puis communiquer les sports. C'est sûr que j'aimerais parler de football et d'NFL à longueur de journée, mais des fois, c'est pas toujours évident. Donc, juste de pouvoir gagner ma vie dans le domaine sportif, c'est ce que je fais présentement. Donc, longue histoire courte. Moi, écoute, j'ai travaillé beaucoup à la radio. J'ai travaillé également pour les médias et j'ai couvert les capitales de Québec, l'équipe de baseball, pendant deux étés pour le Journal de Québec, à me promener un petit peu partout aux États-Unis. J'ai également eu la chance de travailler à Toronto, dans une ville anglophone, mais en français, pour une radio francophone. Et là, maintenant, je suis journaliste à TVA, à la télévision, dans le Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup. Donc, j'ai réussi quand même, tant bien que mal, mon ami Laurent, à gagner ma vie avec le domaine des médias depuis maintenant 9 ans, si je ne me trompe pas.
Ah oui, c'est ça. Puis ce que tu parles, je le comprends très bien. Je l'ai vécu aussi. C'est qu'on dirait que des fois, le sport est regardé un peu de haut par les autres sphères médiatiques. Je me l'explique mal. Je ne sais pas si toi, tu as une hypothèse par rapport à ça.
Oui, tu as raison. Je pense que c'est un peu moins pris au sérieux. Puis je le constate quand même dans une salle des nouvelles avec des journalistes qui couvrent des procès pour meurtre et des gros dossiers politiques et tout ça. Le sport, c'est un peu moins pris au sérieux. Puis je comprends que, écoute, c'est pas le Canadien Laurent ou bien un directeur général de la NFL qui décide de notre compte de taxes, qui décide de notre qualité de vie au Québec, au Canada et tout ça. Je comprends que le sport, ça reste un divertissement. Tu sais, je pense qu'au même titre que la musique, le domaine culturel, ça se ressemble beaucoup, le sport. C'est un divertissement, c'est un échappatoire. Après ta journée de travail, tu peux t'asseoir, regarder du sport, décompresser en quelque sorte. Moi, je pense vraiment que c'est une source de divertissement. Donc, on revient un peu à la prémisse. C'est un peu moins pris au sérieux par le domaine journalistique conventionnel, si on veut. Mais je pense que c'est également à la personne comme nous qui communique le sport, Laurent, qui doit rendre la chose accessible.
Oui,
puis si on rentre dans le trop concret des fois et le trop analytique, je pense que c'est pas intéressant, puis on perd des gens. Donc, c'est à toi de bien communiquer la chose sportive, également de raconter des histoires, ça, c'est très important.
Oui, c'est ça, puis tu as raison. Puis c'est dans le fond d'une certaine manière d'imager ce qui se passe des fois sur le terrain lorsque tu es descripteur, même si tu es analyste, comme tu dis, ne pas trop tomber dans les chiffres, c'est toujours intéressant d'utiliser un bon niveau de langage. On le regarde souvent, ce sont d'anciens joueurs qui vont se diriger au niveau des médias, comme ben, toi tu l'as été un peu, mais en même temps, tu sais, tout de suite. T'sais, ton français est plus qu'adéquat, là, t'sais, je le vois. Est-ce que tu faisais toujours un effort conscient de franciser les différents termes, soit au niveau du football, soit au niveau du hockey, soit au niveau du baseball, là, William?
C'est une bonne question, puis je te dirais, moi, que c'est venu avec le temps, parce que je me suis rendu compte que c'était très important, et surtout, oui, on fait ça pour nous, je veux dire, on parle dans un micro, devant une caméra, ou on écrit un article, on fait ça pour nous, on est passionné de le faire, mais en même temps, c'est des gens qui nous lisent, c'est des gens qui nous écoutent, qui, ultimement, vont consommer, en quelque sorte, entre guillemets, le produit que nous, on donne dans le micro, à l'écran, à l'écrit, et tout ça. Donc, tu dois parler à ces gens-là, puis je me suis rendu compte que c'était très important. Tu sais, il y a certains termes que je pense que les gens vont accepter où c'est vraiment devenu dans le langage du peuple aussi, entre guillemets.
Oui, le langage commun, c'est bon. Ouais.
C'est ça, exactement. Où certains anglicismes, je pense, sont quand même acceptés, mais c'est important de faire un effort. C'est vraiment important. Puis, tu le sais, écoute, nous, on est de grands amateurs de football. Et puis, le football, strictement, tu sais, parce que le hockey, c'est quand même dans nos racines. Et puis, ça existe au Québec depuis des lunes. Tandis que le football, c'est un sport très américain qu'on a amené ici. Et tous les termes sont à peu près en anglais. Mais je pense que c'est important de faire un effort puis de trouver justement le côté francophone, espèce de traduction de ce terme ou de cette expression-là. Puis je vais quand même, moi, écoute, lever mon chapeau à Pierre Vercheval qui également, au fil du temps, a fait un effort considérable pour amener le football en français. C'est pas toujours parfait, c'est pas toujours élégant parce qu'on est habitué d'entendre les termes anglais, mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, les gens qui regardent le sport en français, c'est important de faire un effort et de traduire les mots qui sont trop faciles à dire en anglais.
Mais t'as entièrement raison encore une fois, parce que des fois, c'est des certains termes qui vont grincer à l'oreille à la première écoute, mais en même temps, après ça, on remarque l'effort justement accordé pour que ce soit Pierre Vercheval, mais même au niveau du hockey à l'époque, on avait les René Lecavalier de ce monde, même aujourd'hui, là, Pierre Houde, ce sont des gens qui ont un lexique très développé, puis c'est encore plus intéressant de regarder et d'écouter une partie de hockey ou une partie de football.
Tu as raison, puis j'ai l'impression que même avec les dernières années, mettons peut-être les deux, trois dernières décennies, depuis que, tu sais, M. Lecavalier, Richard Garneau également,
il y a raison.
Eu Claude Quenneville, bref, ça, c'est des monuments de
Monsieur
la
Goldberg,
sportive.
M. Goldberg aussi, aux Jeux olympiques,
oui,
pour l'heure du
exactement.
Patinage artistique.
Mais trouves-tu, Laurent, qu'on dirait que ça s'est perdu un petit peu au fil du temps? Et puis, tu parlais tantôt des joueurs analystes qui, moi, j'y trouve très pertinents à la télé, parce que ils ont une expertise qu'on n'a pas, veut pas. Tu es un fan de sport et tu regardes le sport assis sur ton divan, eh bien, tu n'as pas eu la chance de jouer sur la glace, sur le terrain, de côtoyer les meilleurs de la profession et tout ça. Donc, eux ont des expériences et des anecdotes que nous, on n'a pas. Mais par contre, tu dois être capable de les communiquer. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Moi, j'en trouve de très bons, des journalistes. Je pense entre autres à Guillaume Latendresse, qui a un bon français, qui est capable de bien vulgariser le hockey, la chose. Je pense à Louis-Jean, qui n'est pas nécessairement un ancien joueur de la Ligue nationale, mais qui est très bon également avec le français. Donc, oui, ils sont pertinents, ils doivent être là, mais pas au détriment de communiquer tout croche ce qu'ils ont à dire.
Oui, c'est ça. Ben, moi, je suis ambivalent par rapport à ça parce que tu as raison. Mettre un joueur, que ce soit de hockey ou de football ou peu importe le sport, juste parce qu'il a été joueur, mais qu'il n'arrive pas, t'sais, on arrive à peine à comprendre son explication, étant donné que c'est ponctué, pas juste d'anglicisme, là, de faute de syntaxe et d'orthographe. Ça peut parfois devenir lourd. Là. On comprend à peine l'explication. Là. Rendu là, j'aime mieux quelqu'un qui a une certaine formation au niveau de la communication. Penses-tu qu'on devrait d'emblée, avant de comme les introduire comme analystes ou autres, leur donner une espèce de formation express pour justement utiliser le bon niveau de langage?
je pense qu'on devrait importer ce qui se fait aux États-Unis présentement. ESPN, le plus gros réseau de sport américain. Même chose pour la chaîne de la NFL, là, NFL Network. Bref, chaque ancien joueur ont un genre de cours accéléré.
Ah bon?
Ils vont à une petite université. ESPN possède sa propre université dans le coin de Connecticut. En tout cas, Laurent. Et puis, vraiment, il trouve qu'un joueur peut avoir un potentiel, que durant sa carrière, il communiquait bien les choses lors des entrevues avant, après match, qu'il y avait une aisance à la caméra, une aisance pour s'exprimer. Eh bien, on ne le mettait pas immédiatement sur un plateau de télé à « Vas-y, mon ami, débrouille-toi seul sans aucune formation ». Au contraire, on l'encadrait et quand il était prêt, là, on le plaçait sur un plateau devant une caméra. Puis malheureusement, ça ne se fait pas encore ici au Québec, au Canada. Puis je pense que dans certains cas, on devrait copier ce que les Américains font pour les anciens joueurs qui veulent devenir analystes à la télé.
Oui, ça devrait être clairement encouragé. C'est certain que là, les différents canaux de télévision diront qu'ils devront débourser, mais... À la limite, il pourrait peut-être avoir des subventions ou quelque chose comme ça là, au niveau du gouvernement. Je voulais revenir, tu as œuvré du côté de Toronto une radio francophone. C'était quelle radio exactement?
C'était la radio communautaire francophone de la Ville-Reine. Donc, ça appartenait à la communauté francophone de Toronto, en quelque sorte. Là, il y a quand même plus de 200 000 francophones qui habitent la grande région de Toronto. Pas beaucoup de Québécois, la plupart des Français, des Belges également, qui sont venus s'établir au Canada. Mais il y avait quand même beaucoup de francophones. Donc, une radio pour la voix de ces gens-là, en quelque sorte. Et puis, donc, j'ai travaillé là pendant pratiquement 2 ans. Ça a été premier emploi après l'université et après le Collège Radio-Télévision de Québec. Alors, ça a été très formateur, c'est ça, un milieu francophone, mais dans une ville anglophone. Je t'avouerai qu'au départ, c'était quand même une bonne adaptation, là, mettons.
Explique-toi un peu, c'est quoi? Est-ce que tu avais beaucoup de bâtons dans les roues, comme on peut? Est-ce que tu avais peur d'avoir, je sais pas, moi, est-ce que le public était réceptif? Parce que là, tu parles d'un bassin de 200 000 personnes, c'est sûr, comme
ouais, environ, ouais.
Public cible potentiel. Est-ce que les gens étaient des fervents de la dite station de radio? Comment ça fonctionnait exactement, William?
Ben, c'est dur à dire parce que tu sais, je pense une radio communautaire a pour but d'être la radio des puis dans une ville comme Toronto, oui, il y a des événements culturels, sportifs en français. Mais on s'entend quand même que la majorité du temps, à peu près 98% du temps, tout se passe en anglais. Donc, là, c'était de trouver les nouvelles anglophones pour les amener sur un aspect francophone. Avec un maire d'une grande ville, la plus grande ville au Canada, qui ne parle aucunement français, le gouvernement provincial également, qui n'a pas nécessairement un fait francophone.
Donc, est-ce qu'il y avait, excuse-moi William de t'arrêter 2 secondes, mais est-ce qu'il y avait une pression sur le maire pour qu'il fasse un certain effort au niveau de l'usage du français, justement par la communauté francophone, qui disait que ce serait le fun qu'elle soit représentée un peu?
Par la communauté elle-même, oui, mais tu sais, je vais te dire ça franchement, ils s'en contrebalançaient, eux autres, là, okay. Parce que c'est une ville extrêmement cosmopolitaine, tu sais, avec plusieurs cultures différentes, comme toutes les grandes villes sur la planète, là. Oui, voulant en quelque sorte être plus reconnu parmi les hautes sphères puis les gens qui s'occupent bon du bien-être des citoyens d'une telle ville, mais non, c'était pas vraiment dans les priorités. Comme souvent, on a parlé également d'établir une université francophone,
oui,
dans la région de
Toronto.
Dans
c'est revenu dans l'actualité, même dans la dernière année, je crois. Même.
Oui, exactement. Ça fait, écoute, Laurent, je pense une vingtaine d'années qu'on parle de ce projet-là qui, des fois, avance un petit peu, mais whoop, il stagne et par la suite, on n'aboutit pas vraiment à rien puisque la demande n'est peut-être pas très présente ou vraiment prise au sérieux par les hautes sphères en Ontario. Mais bref, donc, c'était pas évident aussi de couvrir les sports. On revient un peu à ça tantôt, Laurent, de couvrir les sports alors que, bon, c'est des grandes équipes dans des grandes ligues comme, bon, au baseball, c'est la seule équipe équipes de la Ligue majeure de baseball au Canada, elle est à Toronto. Même chose pour au niveau du basketball avec les Raptors. Alors, c'était pas facile de consommer le sport en anglais et par la suite le traduire et l'expliquer en français. Donc, ça demandait quand même une petite période d'ajustement. Là.
Est-ce que tu étais jugé par tes collègues anglophones? Parce que je sais pas, est-ce que tu suivais une équipe en particulier ou différents sports? Ou...
Je te dirais non, plutôt on était bien accueillis. Et puis, certains journalistes qui, des fois, ont peut-être été à Montréal pour un court emploi ou qui se sont promenés à travers l'Amérique et puis qui ont peut-être des origines françaises, souvent, ben, ceux qui étaient capables de baragouiner des mots en français étaient vraiment contents de venir me parler puis de tenter de reparler français alors que c'était très, très loin dans leur esprit. Non, je te dirais plutôt qu'on était bien accueillis, peut-être un peu moins pour les joueurs, mais moi, j'ai été chanceux, entre autres, avec les Maple Leafs de Toronto à l'époque où j'allais dans le vestiaire. Il y avait Stéphane Robidas, un Québécois, qui était là, puis qui m'a pris un peu sous son aile et qui m'a présenté aux autres joueurs des Maple Leafs et qui leur disait, bon, que j'étais un jeune qui débutait dans le métier avec un anglais très médiocre, on va dire ça comme ça.
Approximatif, donc,
pas,
oui.
De ne pas me juger, tu sais, puis d'essayer de m'aider là-dedans un peu.
OK. Ben, c'est intéressant, par contre, là, de voir que tes collègues anglophones, en même temps, eux, voulaient pratiquer leur français. Puis au niveau des joueurs, mais ça a quand même passé par un Québécois, dans le fond, qui t'a aidé à être bien perçu au niveau du vestiaire. Parce que, de ce que je comprends, sinon, on aurait pu un peu t'ignorer là, de la part des joueurs qui parlaient uniquement anglais, là.
Ah, je pense que oui. Puis, tu sais, je veux dire, il y a toujours eu une rivalité quand même entre, mettons, Toronto et l'aspect francophone, autant, mettons, de la capitale canadienne à Ottawa ou même, bon, Montréal, avec les rivalités, là, ou peut-être du temps du référendum, là, et tout ça. Donc, bref, ils ont toujours quand même eu une opinion, je te dirais, mitigée envers le Québec et l'aspect francophone. Eux sont convaincus peut-être au même titre que leurs voisins du sud des Américains que c'est tout ce qui se passe de gigantesque, c'est dans leur cour, puis il n'y a rien qui se fait de bien ailleurs. Mais bon, je ne veux pas nécessairement rentrer dans ce débat-là, mon cher Laurent. Là.
Pas de problème.
Mais, non, exact. Là. Mais non, ça n'a pas toujours été bien vu. Puis on voit vraiment justement que, bon, je te parlais tantôt de la communauté d'environ 200 000 dans le Grand Toronto. Tu sais, les Français habitent à peu près tous au même endroit. Même chose pour les Belges, même chose pour les peu de Québécois qui habitent dans la ville reine. Donc, ils se mélangeaient pas tant que ça aux Torontois canadiens d'origine, je te dirais.
OK. Tu œuvres aussi dans l'univers des balados, là, tout comme celui qu'on fait présentement. Mais toi, par contre, c'est justement pour parler de football. Est-ce que c'est important pour toi que ton balado soit fait en français uniquement? Je ne sais pas si, par contre, des fois, il y a des entrevues en anglais. Là, je serai franc. Je l'ai écouté à quelques reprises, mais j'ai pas écouté l'œuvre complète. Mais c'était important pour toi qu'il y ait une voix française, un balado français sur le football?
Oui, tout à fait très important. Uniquement en français, oui, quelques anglicismes du monde du football, là, c'est sûr, mais quand même, ou sinon, c'est uniquement en français. Puis oui, c'est important parce que aux États-Unis, il y en a une panoplie. Je pense qu'on peut même plus les compter, le nombre de balados sur le football, autant sur le football universitaire que de la Ligue nationale de football. Il y en a une panoplie. Et au Québec, au Canada, même on est écouté à travers le pays. Je veux pas me vanter, mais je vais le faire quand même.
Vas-y,
Laurent.
Vas-y.
On est dans le top 5 sur la balado Spotify, sur la plateforme Spotify plutôt, au niveau du sport francophone au Canada. Alors, on va quand même se flatter les épaules pour ça. Mais c'est écouté à travers le pays, parce que oui, il y en a, là, tu sais comme moi, énormément de Québécois francophones qui habitent dans l'ouest du pays et puis qui adorent le football, puisqu'ils sont très près des États-Unis. Donc, eux, à la télé, ben, ils en voient énormément de football. C'est à peu près ce qui passe en premier dans les bulletins de nouvelles sportifs. Alors, d'avoir un balado, on n'est pas les seuls, il y en a d'autres, là. Mais en français, alors que je pense qu'il y a encore de plus en plus de partisans qui commencent à apprécier ce sport-là et qui veulent en quelque sorte le consommer en français. Les cotes d'écoute à RDS pour le football ne cessent d'augmenter d'année en année. On a parlé tantôt de Pierre Vercheval qui fait un effort pour parler de football en français. Et je pense que les gens commencent à apprécier ça. Donc, on veut leur offrir un certain produit qui n'existait pas beaucoup par le passé, vraiment un balado sur la Ligue nationale de football en français. Alors, c'était très important de le faire et tout. Et sérieusement, il y a également beaucoup de nos cousins français qui écoutent le balado parce qu'eux aussi consomment le produit de la Ligue nationale de football et puis ils se cherchaient quelque chose dans notre langue, en français, et non pas juste à peu près toutes les mêmes choses qui sont diffusées aux États-Unis.
Est-ce qu'une plateforme comme Spotify, des fois qui a été décriée par des artistes, justement, québécois ou français ou autres, est-ce que tu trouves que ça donne quand même une bonne vitrine? Parce que, de ce que je comprends, en étant dans le top 5, lorsqu'on va directement sur la Spotify, tu deviens un peu, votre balado devient un peu recommandé, dans le fond, si je comprends bien?
Oui, exactement. Fait que oui, tu sais, c'est une extraordinaire plateforme. Écoute, je peux pas parler à la place des artistes et tout, mais...
Mais c'est certain que toi, par contre, c'est sûr, peut-être plus eux au niveau des redevances. Là, je sais
ouais,
pas si, je pense pas non plus que tu deviennes riche avec le nombre d'écoutes là, de ton balado. Là.
Non, ben écoute, ça arrive un jour, moi être le premier content, là, mais on fait pas ça pour ça. On a déjà reçu un petit chèque de la plateforme YouTube, là, mais mettons que je pouvais même pas m'acheter une caisse de bière avec ça. Là, fait que tu comprends là, okay. Un petit peu. Mais oui, tu sais, je veux dire, surtout, je pense que les balados ont pris énormément, ont monté en popularité, tu le sais comme moi, dans les 5-10 dernières années. Particulièrement, mettons, dans les 5 dernières années, pour ce qui est de nous, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, là, parce que ça existe quand même depuis longtemps, les balados. Mais, tu sais, s'il n'y a pas de plateforme quand même comme les monstres, là, les gigantesques joueurs comme Spotify, YouTube, Apple et compagnie, bien, ça va être difficile d'aller rejoindre justement la
jeune génération aussi
de football en France.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Qui ne nous aurait jamais connus dans le fond. Tu comprends, Laurent?
Puis même la jeune génération, parce que la jeune génération consomme de moins en moins de télé et de radio, ben dans le fond, de médias traditionnels. Ils se dirigent plus vers ce type de plateforme. Justement, au niveau de la jeune génération, je ne sais pas si tu as beaucoup d'intervenants plus jeunes. Trouves-tu leur français adéquat? Est-ce que des fois, justement, lorsque tu vois l'écriture de certains sur les réseaux sociaux, ton œil fatigue un peu? Tu penses quoi de tout ça?
Ouais, ben...
Sans faire de l'âgisme, on peut en discuter parce que c'est vrai des fois, quand on voit un français approximatif, disons sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Là. Des fois, on arrive même à peine à suivre la conversation si le français est trop escamoté. C'est pas plaisant. Là. La langue, on peut quand même prendre plus de temps pour bien l'utiliser. Là.
Oui, tu as tout à fait raison. Puis on est les premiers à parler en privé, moi et toi, Laurent, et puis on veut utiliser des termes anglais et tout ça, mais je pense quand même important de faire un effort, autant qu'on écrit en privé ou en public, en quelque sorte, avec une publication qui peut être vue par tout le monde, tu sais, de moindrement faire un effort. Puis maintenant, c'est facile également avec les Google de ce monde de simplement aller vérifier si c'est la bonne ponctuation, la bonne écriture et tout ça, tu sais, c'est facile. Puis, écoute, je me prétends pas être un Richard Garneau de ce monde et puis avec un français impeccable, là, loin de là, mais je pense que simplement que c'est important de faire un effort. Et pour répondre à ta question initiale sur qu'est-ce que tu penses un peu de la nouvelle génération, je vais peut-être sonner mon oncle, là, sérieusement, entre guillemets, mais je suis pas sûr que l'arrivée des Dead Obies et compagnie qui font de la musique, du rap, à l'occurrence, en genre de franglais, là, c'est qu'on appelle, oui. Là, en mixant la langue française et anglaise. Moi, maintenant, c'est ça. Je vais rencontrer des jeunes joueurs de football, de basket, tu sais, qui sont en secondaire 2, 3, peu importe, ou même au primaire. C'est spécial comme langage. C'est vraiment spécial. Puis écoute, j'ai pas 40 ans, là, j'ai pas 25 ans de plus que ces jeunes-là, mais on dirait qu'il y a une énorme différence entre moi, l'éducation que j'ai eue à ce niveau-là, que eux, ce qu'ils ont comme éducation, pas comme éducation, peut-être ce qu'ils voient un peu partout sur les internets de ce monde où c'est vraiment facile d'avoir accès à l'anglais puis de consommer des trucs en anglais. Mais je trouve que on s'en va peut-être dans la mauvaise direction à ce niveau-là.
Disons qu'on est sur une pente glissante, mais en même temps, si on continue de consommer nos artistes québécois qui eux, vont plus utiliser uniquement le bon français, je pense qu'il n'y a pas de problème. Là, on peut faire un mélange des deux. On peut toujours écouter du Dead Obies, mais en même temps, écouter une œuvre de Gimignon, par exemple. T'sais, je ne sais pas, là, je donne deux mondes complètement parallèles. C'est deux mondes complètement différents, mais ça reste des artistes quand même, je pense, qui ont tout leur droit de faire ce qu'ils veulent, en autant que le plus possible, ce soit dans un bon français. Hey, William, pour les gens justement qui voudraient écouter ton balado, je vais te donner la chance de donner comment est-ce qu'on fait pour la retrouver justement sur Spotify. Vas-y, William.
Merci, c'est gentil de me permettre la fenêtre pour le dire. Donc, premier et les buts, donc au football, quand on est hein, premier et les buts, c'est le nom de notre balado. C'est disponible sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc, on a parlé de Spotify, il y en a bien d'autres, c'est sûr que c'est la plus connue, mais donc on est disponible. Nommez-moi la plateforme d'écoute, on est là, que ce soit TuneIn, Deezer, Google, donc partout, également sur Google, c'est assez facile de nous trouver sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook. Et donc, c'est assez facile de pouvoir nous trouver et nous écouter parler de football en français.
C'est ça, c'est intéressant. On continue de parler de notre passion qui est le sport, que pour certains, comme on disait en début de l'entrevue, que voit un peu de haut puis comme l'opium d'un peuple, mais ça nous prend du divertissement aussi parce que des fois, ça peut devenir lourd là, si on parle seulement de politique internationale et d'actualité, on va le dire comme ça.
Tout le monde s'est ennuyé du sport pendant pratiquement un an et demi là, avec la pandémie où la planète sportive a été mise sur pause. Là. Et puis moi, bien des gens qui n'étaient pas les plus grands partisans de sport étaient bien contents de retrouver un bon match de hockey, un bon match de football. Alors, du pain et des jeux, hein?
Oui, c'est ça. Puis on l'a vu aussi quand le Canadien s'est rendu en finale pour les grands honneurs pour la Coupe Stanley. Ça l'a assaini un peu le climat social en général. Ça a fait du bien. Je l'ai dit que les Canadiens aient performé, ça a aidé. Là, je vais arrêter parce que je veux pas non plus trop...
Ça a été un peu notre thérapie là, psychologique, le Canadien en série.
Thérapie collective. Hey, je t'en remercie beaucoup, William. Prends soin de toi et au plaisir de se reparler.
Merci à toi, Laurent. Ça fait un plaisir.
Au revoir. C'était William Boivin, journaliste sportif.